C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Vous le savez, le nombre de fusillades est en forte hausse dans la région de Montréal. C'est pas une impression, c'est documenté. Juste hier, il y en a eu 3 en moins de 6 heures. Et il y a ce qui se passe beaucoup, là, c'est que les armes sont importées illégalement des États-Unis. Et une des zones où passerait le trafic d'armes en provenance des États-Unis, ce serait la réserve Mohawk d'Akwesasne. Évidemment, il y a d'autres points le long de la frontière canado-américaine là, qui sont des zones de transit. Puis je vous le rappelle, la frontière canado-américaine, c'est la plus grande frontière non défendue au monde. Et le gouvernement du Québec aujourd'hui a annoncé que sa lutte contre la violence armée allait passer par une surveillance en permanence dans la partie québécoise du territoire Mohawk d'Akwesasne. Et le territoire d'Akwesasne, je le souligne, est partagé entre le Québec, l'Ontario et l'État de New York. On va faire le point avec le sergent détective à la retraite du SPVM, division du renseignement, André Gélina, qui connaît bien cette réserve à Akwesasne. Monsieur Gélina, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Bon, d'abord, je veux qu'on parle d'Akwesasne comme zone de transit pour toutes sortes de d'objets de contrebande. Là, il y a de la drogue, il y a des armes, on le sait. Qu'est-ce que ça représente comme trafic? Qu'est-ce qu'on sait?
Ben, écoutez, c'est sûr que la réserve d'Akwesasne, comme certains autres territoires au Canada ou au Québec, on sait qu'il y a des particularités politiques qui fait que le gouvernement, la police marche sur des œufs lorsqu'on parle de contrôle de criminalité, lorsqu'on parle de souveraineté du territoire. Il y a des raisons, à raison ou à tort, là, que ça fait que c'est la spécificité de ces territoires-là rend les choses plus difficiles. Ce qu'on sait, évidemment, vous l'avez bien résumé, il y a toutes sortes de trafics de marchandises illicites, que ce soit le tabac, les armes, les stupéfiants, évidemment, ça passe par là parce que si on est une organisation criminelle, vous l'avez encore une fois bien décrit, la situation géographique, ça peut passer entre chaque arbre n'importe où. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que la facilité fait qu'on essaie de passer dans des endroits où c'est plus pratique. Bon, est-ce qu'on va essayer de passer à la colle? Oui, il y a certainement des marchandises illicites qui passent là, mais la probabilité de se faire prendre est plus grande. Donc, si on est une organisation criminelle et on sait qu'il y a un certain vide juridique, ben c'est intéressant pour cette organisation criminelle-là, d'avoir une certaine assurance de faire affaire avec le crime organisé local pour avoir un certain sauf-conduit. Fait que ça, on se cachera pas, là, je veux dire, c'est la réalité à laquelle on fait face.
Mais est-ce que c'est quantifié? Parce que, écoutez, chaque fois que je parle à ce micro de contrebande des armes, d'importation illégale d'armes en provenance des États-Unis, il y a des gens qui m'écrivent, qui disent « Ouais, on le sait, ça passe par les réserves indiennes. » Écoutez, je veux bien là, que ça passe par les réserves indiennes, mais la réalité, c'est que ça passe aussi par d'autres points. Est-ce qu'on sait c'est quoi la proportion de ce qui est importé illégalement qui passe par les réserves autochtones et ce qui passe ailleurs?
C'est très difficile. En fait, pour pratiquement réussir à le quantifier, il faudrait qu'il y ait plus d'opérations qui soient faites sur le territoire. À ce moment-là, on pourrait mettre un chiffre derrière les saisies. Évidemment, lorsqu'on saisit une arme de poing, c'est très facile de savoir si elle est l'origine du Canada parce que les armes de poing sont enregistrées depuis les années 30. Bon, si on prend ça par exemple. Donc, notre arme de poing qu'on va saisir avant ou après la commission d'un crime, cette arme-là, on sait rapidement, est-tu canadienne ou elle vient d'ailleurs. Par où est-ce qu'elle a passé? Encore une fois, c'est très difficile. Je pense que nos statistiques sont difficiles à colliger dû au fait qu'on... Il y a peut-être pas assez ou il y a peut-être pas beaucoup d'opérations sur le territoire, mais il y a une chose est sûre par contre, on peut savoir qu'elle n'est pas née au Canada ou du moins qu'elle n'a pas été acquise légalement au Canada, mais vous avez raison, je pense en toute justice, on doit le mentionner, ce n'est pas qu'à quoi ça se nique le problème, c'est un des problèmes, évidemment, c'est peut-être un problème qu'il faut adresser, mais c'est sûr et certain qu'il n'y a rien qui empêche quelqu'un, comme on l'a vu là, qui s'est acheté une propriété qui jouxtait la frontière américaine, puis évidemment, allait prendre des petites marches dans le bois et revenait avec un sac de hockey.
Ça, c'était pas des Autochtones, là. C'était un bon jeune Canadien-Français diplômé de l'Université Sherbrooke. Là.
Exactement. Faut le dire.
OK, parlons de ce qui a été annoncé aujourd'hui à Akwesasne. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, était sur place, a annoncé un partenariat. On va financer l'embauche de policiers. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui sont concrètes ou on est plus dans les relations publiques?
Non, je pense que c'est concret. Écoutez, on peut pas être contre la vertu. Là. Je pense qu'il faut saluer ça parce que en même temps, la voie maritime est un endroit de transit important. Le fait d'acheter un bateau qui va leur permettre tactiquement d'occuper le terrain. Évidemment, on n'a pas trop de détails à savoir c'est quoi les équipements spécialisés qui vont être embarqués sur le bateau. On pourrait peut-être penser à un système de vision de nuit, de infrarouge, parce que on le sait, les criminels ne feront pas ça non plus en plein milieu de l'après-midi. Ça, c'est souvent à la couverture de la nuit. Donc, c'est sûr et certain que ça va aussi augmenter la crédibilité du corps de police. Parce que, vous savez, les policiers de l'Aquasassiné, c'est très certainement des gens bien intentionnés. Mais là, en ayant les équipements et l'intervention du gouvernement du Québec qui se fait dans le respect, évidemment, de ses compétences de juridiction édictées par la Constitution canadienne, je pense qu'on peut pas être contre ça. Ça va leur permettre d'établir aussi probablement des partenariats puis de rentrer aussi dans la lutte globale au crime organisé. Parce que là, on a une bonne hypothèse de penser que la majorité des fusillades qui se produisent dans nos rues, c'est l'œuvre des gangs de rue. Mais c'est sûr que le crime organisé local, à Aquasassiné, a des contacts et a agi en synchronicité avec tous les types de crimes organisés, que ce soit les moteurs, la mafia italienne, ça, on peut pas le nier non plus.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
À la prochaine. André Gélina, sergent détective à la retraite au service de police de la Ville de Montréal, division du renseignement.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Ben c'est ça, je vous l'avais promis cette semaine, une entrevue par jour sur la question de l'eau. Moi, c'est une question qui m'inquiète. On est un paradis d'eau douce au Canada, au Québec. Pourtant, l'eau est pas également distribuée sur le territoire. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des municipalités qui en viennent parfois à frôler la pénurie d'eau. On peut penser à Saint-Lin, on peut penser à Québec qui a décidé de restreindre, par exemple, les heures d'arrosage, les jours d'arrosage pendant l'été. Mais ça, on est plus de monde, il y a peut-être pas autant d'eau qu'on le voudrait au moment où on le voudrait. Et ce sont des questions, quand on se compare, qui commencent à se poser un peu partout. Dans le sud-ouest américain, la Californie, le Nevada commencent à avoir des problèmes d'approvisionnement d'eau vraiment importants. Lundi, on a parlé de tout ça avec Boucar Diouf. Hier, avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, à propos de ces compagnies qui embouteillent de l'eau au Québec. Et aujourd'hui, on va pousser l'analyse un peu plus loin. On va s'interroger sur la véritable valeur de l'eau. À qui appartient l'eau? Et est-ce qu'une guerre pour le contrôle de l'eau? On va vivre ça de notre vivant. Frédéric Lasserre est expert en géopolitique de l'eau et directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques à l'Université Laval. Professeur Lasserre, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, parlons d'une potentielle guerre de l'eau. Est-ce que c'est un scénario de science-fiction?
Alors, pour le moment, c'est un petit peu un scénario de science-fiction dans la mesure où on voit aucun conflit ou vive tension dans le monde qui découle uniquement de désaccords entre pays sur le partage de l'eau. Il y a des tensions, par exemple, entre Israël et ses voisins, dans le bassin du Nil, au Proche-Orient, en Asie centrale, où l'eau fait partie des objets de dispute, de contentieux entre les États, mais c'est l'eau est un sujet de dispute parmi d'autres. Ceci dit, même si je suis pas trop inquiet à court terme, à long terme, au fur et à mesure qu'on voit les populations augmenter, qu'on voit les besoins des populations, de l'agriculture, de l'industrie augmenter, et qu'en plus, il y a les paramètres des changements climatiques qui pourraient se mettre de la partie et faire en sorte que dans certaines régions, il y aurait encore moins d'eau. Moi, je pense qu'il faut quand même rester vigilant et c'est pas impossible que d'ici quelques décennies, il y ait tellement de tensions entre certains États que ça finisse par aboutir à un conflit.
Trouvez-vous qu'on parle suffisamment de la gestion de nos ressources en eau au Québec?
Je pense qu'on en parle plus qu'avant, mais qu'on devrait en parler encore davantage. Tout se passe au Québec comme si on prenait l'eau comme une ressource acquise, comme si elle était infinie. Ce qu'il faut, l'eau, elle existe en quantité relativement abondante. Pour ça, on est chanceux au Québec, et elle est en plus de relativement bonne qualité, mais elle n'est pas présente en quantité infinie. Donc, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a effectivement des régions où, en été, ça commence à coincer un petit peu. On a du mal, dans certaines municipalités, à joindre les deux bouts et à satisfaire l'ensemble de la demande.
On sait qu'il y a des compagnies qui viennent au Québec ou même qui sont établies au Québec et qui peuvent pomper l'eau, la vendre en bouteille et qui payent des redevances là faméliques. On a entendu le chiffre de 3 millions par année. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce débat-là, professeur Lasserre?
Déjà, il faut relever qu'avant 2010, elles ne payaient rien, ces entreprises. Il n'y avait même pas de redevance avant que la loi de 2009 rende ça obligatoire. Et je suis frappé que les redevances ne soient pas plus élevées et qu'en plus, les compagnies ne soient pas obligées de divulguer les quantités qu'elles pompent. Pourquoi ça me choque? Parce que la loi de 2009 que je viens de mentionner, elle établit très clairement que l'eau appartient à tout le monde. L'eau, c'est une ressource collective, donc qui appartient à l'ensemble des Québécois. C'est pas l'État qui est propriétaire. L'État, il est chargé de la bonne gouvernance de cette ressource au nom de l'ensemble de la société. Donc, à partir du moment où il y a des entreprises qui viennent pomper cette ressource qui nous appartient à tous, bien, c'est tout à fait légitime que l'entreprise verse sa juste part du fait qu'elle vient chercher une ressource qui nous appartient à tous.
L'eau qui est pompée au Québec, professeur, elle est vendue, distribuée où?
Elle est vendue, les embouteilleurs d'eau distribuent leur eau à la fois au Québec et dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. C'est commercialisé à la grandeur du continent. Donc, c'est pas des volumes qui sont nécessairement très, très importants par rapport à l'ensemble des autres surfaces, mais localement, ça peut représenter des pompages qui sont assez conséquents. Simplement, on ne sait pas quelle est l'ampleur de ces pompages, puisque, comme je le disais tantôt, les compagnies ne sont pas tenues de révéler les quantités qu'elles pompent.
OK. En Amérique du Nord, dans les marchés où l'eau québécoise est distribuée, grosso modo, là, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait qu'il y a de l'eau potable disponible de qualité un peu partout au Canada et aux États-Unis?
Il n'y a pas vraiment de région aux États-Unis où on est en manque objectif d'eau. Même dans l'ouest des États-Unis, où on pense souvent qu'il y a des... On est confronté à des graves pénuries d'eau. En Californie, au Nevada, en Arizona, il y a de l'eau grâce aux rocheuses, surtout au printemps avec la fonte des neiges. Simplement, ce qui fait qu'on a des difficultés à assurer la satisfaction de l'ensemble des besoins, c'est que l'agriculture consomme énormément d'eau. À peu près 80% de l'eau qui est consommée dans l'ouest des États-Unis, c'est le fait de l'agriculture. Autrement dit, on permettrait à l'agriculture, au secteur agricole, de consommer nettement moins. Il n'y aurait pas de problème d'eau en Californie. Parce qu'elle existe encore. Quantité relativement importante.
Je vous posais la question sur l'accessibilité de l'eau potable en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, parce que il me semble qu'il y a quelque chose de peut-être un peu illogique dans le fait qu'au Québec, l'embouteillage de l'eau soit permis. Je veux dire, là où cette eau-là est exportée, la plupart des habitants de ces marchés-là vont ouvrir le robinet et vont avoir de l'eau. Je veux dire, on permet l'exportation d'une ressource qui est disponible partout. Il n'y a pas quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans?
Vous avez raison de souligner cette apparente contradiction. En fait, c'est que les embouteilleurs d'eau ont réussi une magnifique opération de marketing, c'est-à-dire de faire croire que l'eau en bouteille est bien meilleure pour la santé, bien meilleure tout court, que l'eau du robinet. Alors, il y a des régions, effectivement, où, à la grandeur du continent, où la qualité des eaux qui sont distribuées dans les réseaux publics n'est pas optimale, où elle n'a pas nécessairement un très bon goût. Ça peut être à cause de facteurs tout à fait naturels, parce que c'est à cause des sels qui sont dissous. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise pour la santé. Il y a aussi des régions où on est obligé de mettre davantage de chlore, et à ce moment-là, l'eau n'est pas nécessairement très, très bonne au goût. Mais elle rencontre toujours les critères de santé public, alors que ce n'est pas le cas des eaux embouteillées.
Pourquoi vous dites que l'eau embouteillée, professeur Lasserre, c'est une sorte de petit miracle de marketing?
Parce que précisément, donc, les embouteilleurs ont réussi à convaincre une partie importante des consommateurs que c'était meilleur pour la santé de boire de l'eau embouteillée, ou meilleur pour la santé, ou plus chic, ça dépend de sur quel registre affectif la publicité vient jouer, mais il n'y a pas de justification en termes de santé publique à vouloir boire de l'eau en bouteille dans la plupart des régions. Je dis bien dans la plupart des régions parce qu'il y a des exceptions. On peut penser par exemple aux villages autochtones où effectivement l'état des infrastructures est tel que l'eau distribuée dans les réseaux au robinet n'est pas potable. C'est un scandale public de gouvernance que les gouvernements tardent à régler, mais à part ces exemples scandaleux, dans la plupart des municipalités, l'eau est quand même de bonne qualité. Mais on a fait croire aux gens que c'était mieux de boire de l'eau en bouteille, alors que, comme je le disais à l'instant, non seulement les eaux embouteillées sont sujettes à des normes qui sont moins sévères en termes de potabilité, mais en plus, ça séjourne longtemps dans des contenants en plastique dont on ne connaît pas très bien les effets de long terme sur la santé humaine.
Bon, le débat se fait sur la hauteur des redevances. On l'a dit, 3 millions pour toute l'eau qui est pompée, et on ne connaît pas la quantité, c'est un secret industriel. Ceci étant dit, pensez-vous qu'on devrait faire le débat sur est-ce que ça devrait être permis ou pas de pomper notre eau pour l'exporter?
Ça devrait être une décision prise au cas par cas par le ministre de l'Environnement, effectivement, en fonction des besoins qui sont présentés par l'entreprise. Voilà, je voudrais pomper X milliers de mètres cubes par année. Le ministre devrait avoir l'attitude de demander, bon, as-tu fait une étude d'impact environnemental? C'est quoi les ressources qui sont disponibles, les eaux de surface, les eaux souterraines? Quel va être l'impact des prélèvements que vous entendez faire? Et faites-moi la démonstration qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur l'ensemble des autres usagers et sur l'environnement. Autrement dit, de refuser d'emblée tout pompage me semble excessif. En revanche, qu'il puisse y avoir un contrôle pour qu'on s'assure que ces pompages, qui peuvent être parfois très, très importants localement, que ces pompages n'aient pas trop d'impact, oui, ça me semble nécessaire.
Qu'est-ce que les Québécois comprennent mal à propos de notre gestion de l'eau, de cette richesse-là?
Je pense qu'on prend, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend un petit peu la ressource en eau pour acquis. Mmh. Elle est en quantité quasiment infinie. Elle est gratuite, ce qui, dans les deux cas, est faux. C'est une ressource qui est fondamentale, qui est utile pour l'économie, mais qui est vitale pour nous tous au quotidien, qui existe en quantité finie, qui peut être gravement polluée si on ne fait pas attention, et qui, en plus, coûte quelque chose au pouvoir public pour la prélever, la potabiliser, la distribuer, ensuite traiter les eaux usées. Tout ceci a un coût, évidemment. Si plus les prélèvements augmentent, plus ça coûte quelque chose au pouvoir public. Donc, finalement, c'est nous tous qui payons.
Vraiment intéressant. Merci de nous avoir parlé de la question de l'eau au Québec et ailleurs dans le monde, professeur Lasserre. Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Frédéric Lasserre, expert en géopolitique de l'eau à l'Université Laval. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant d'images, on n'a jamais pris autant de photos. Tout le monde ou presque a une caméra en tout temps dans ses poches. Ça s'appelle un téléphone et on a des tribunes pour exposer les photos, les images, Facebook, Twitter, Instagram. Et on diffuse comme ça des photos de nos enfants partout. Et c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Salut Maude.
Salut Pat.
Donc, pourquoi c'est pas une bonne idée de partager les photos de nos enfants? Parce que c'est assez innocent de montrer les photos d'un enfant de 2, 3, 4, 5, 6 ans.
C'est tellement pas une bonne idée. Ça s'appelle du sharenting, Pat. Donc, la contraction entre le overshare, donc partager trop, et parenting, donc la parentalité. Oui. Le fait de faire ça, en fait, c'est que tu fais rentrer très tôt ton enfant dans la vie digitale sans son consentement. Donc, tu l'exposes. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu exposes sa vie privée. Ça fait que tu partages des données. Hein. Ça peut être son nom, sa date de naissance, son école, sa garderie, sa localisation. Et ça fait beaucoup de choses. Et ses photos, évidemment. Ça fait aussi que, dans le fond, on peut retracer tout le parcours de l'enfant, des fois même à partir de la gestation, à partir de la grossesse. Donc, il y a tout un parcours qui est là. Et donc, les entreprises, on le sait, peuvent récupérer les données. Donc, ça atteint la vie privée, mais ça atteint aussi d'un point de vue plus philosophique, je te dirais, le fait que on le fait rentrer dans le monde digital sans son consentement. Il n'a pas décidé. La plupart des plateformes, c'est à partir de 13 ans. Donc, si l'enfant décidait lui-même, ça serait à partir de 13 ans qu'il pourrait décider qu'il va lui-même sur TikTok, sur Instagram, exposer ses affaires. Dans le fond, on colle la chute à sa place.
Mais j'essaie de comprendre. Le danger, c'est quoi? C'est que, bon, tu dis, bon, des compagnies pourraient prendre ces données-là pour capitaliser là-dessus. C'est déjà le cas pour les adultes, là.
Oui, mais faire du marketing, publicité enfant, le cibler d'avance, suivre l'enfant, le retracer, à la fois aussi prendre les photos des enfants pour en faire, pour soit passer pour ses parents ou soit encore pour, on le sait, la prédation. Donc, il y a tout ça et aussi le fait que, comme je te dis, l'enfant a pas choisi. T'sais, 92% des enfants là, aux États-Unis, à partir de 2 ans, ils ont déjà une présence sur Internet.
C'est beaucoup, là.
C'est énorme. Donc, oui, ça apporte plein de problèmes. Puis, il y a une étude qui est sortie, là. D'ici 2030, près de 2/3 des cas d'usurpation d'identité menant à des fraudes vont toucher les enfants qui sont là aujourd'hui. Ce sont des parents qui ont fait du sharenting. Fait qu'il y a tout le cas de fraude. C'est perdre son identité, c'est quelque chose. Essaye de récupérer ça.
On peut aussi se faire voler son identité parce que des vieilles photos de nous, enfants, ados, circulent encore?
Oui, exactement.
Puis des données aussi qui viennent avec ça. Là.
Pense aux poursuites qu'il pourrait avoir, mais pense aussi, Patrick, d'un point de vue plus, je dirais, si on regarde le global picture, prenons un pas de recul. L'enfant qui se fait décrire d'une certaine façon ou qui se fait présenter d'une certaine façon par ses parents ou par des autorités et qui, finalement, construit son identité à partir de ça. Mais il n'a pas nécessairement décidé de ça. Je te donne un exemple. Un parent qui, par exemple, va parler de sa fille première de classe, va beaucoup parler de ses prouesses, de ses notes, de ses bons résultats, de ses performances. L'enfant se retrouve comme un peu déjà dans un tracé qui est décidé pour elle. elle peut être comme pris avec ça. Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle a veut comme identité? Elle est en train de construire son identité comme pré-ado, mais, comme ado. Ça peut poser des problèmes aussi dans le cas du développement de ton identité.
Tu sais, Facebook est arrivé sur nos radars là, il y a 15 ans à peu près cette année, environ, OK? Grand public, ouais. L'été 2007, là, c'est là que ça a vraiment commencé à décoller. On se posait pas ces questions-là. On savait pas.
Exactement, mais tu sais, pourquoi on partage les photos? Dans le fond, à l'époque, là, à notre époque, on partageait des photos parce qu'on voulait faire un album, on les voulait pour nous-mêmes, on voulait pour la postérité, en fait, pour garder des beaux moments. Maintenant, on partage une photo. Tu prends une photo puis tu penses déjà au moment où, hey, vite, il faut que je la partage. Mmh. C'est ça, maintenant. Mmh. Donc, ça devient, c'est ça. Il y a comme des questions à se poser. Dans le fond, c'est le consentement. Moi, c'est ça surtout qui me
justement
dérange.
Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses de ça, tu sais, les vedettes, les stars, autant aux États-Unis qu'ici, qui décident dans les revues à potins ou aussi sur leur propre Instagram de mettre en scène leurs enfants qui deviennent des stars là, à partir de la naissance, alors que, comme tu dis, ils ont absolument rien demandé, ces enfants là tu penses quoi de ça?
Ben moi, je sais pas comment ça va virer. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire exactement.
Avec
c'est
eux,
ça mon
ouais.
point.
Mais
on est comme en train de scraper la réputation de nos enfants à partir du moment où ils naissent. Puis on sait pas c'est quoi les répercussions à long terme de ça.
Et plus largement, là, tu parles des enfants, mais nous-mêmes, tu sais, quand je parle de Facebook, là, il y a 15 ans, on s'est lancé là-dedans avec beaucoup d'abandon, puis d'innocence, puis de naïveté. Mais aujourd'hui, on est traqué à tout moment par les petits capteurs de données qu'on laisse partout, qui sont dans nos téléphones. Aux États-Unis, j'ai vu des reportages où ils peuvent traquer des gens en temps réel avec les données qui sont anonymisées. Là, on sait pas que c'est toi, mais quand même, on a décidé pour des likes, pour du rayonnement, d'échanger une partie de nos vies privées. Tout le monde, pas
oui,
juste les enfants.
On n'est pas le client, on est le produit. Puis quand on applique ça aux enfants, c'est encore plus épeurant. Ouais. Moi, c'est ça qui me dérange. Puis moi, personnellement, je regrette.
Mais okay,
tu regrettes vraiment?
Attends,
oui.
Tu devances ma question. Moi, t'es mon ami, je te suis sur Facebook, sur Instagram. Des photos de tes enfants, il y en a beaucoup.
Il y en a pas mal. J'en mets de moins en moins, maintenant toujours avec leur consentement. Je regrette de l'avoir fait quand ils étaient plus jeunes. Vraiment, c'était à refaire, je cacherais le visage, j'attendrais. Puis maintenant, je leur demande toujours. T'sais. Puis moi, j'ai un peu bousillé l'affaire dans le sens que maintenant, quand je sors mon téléphone prendre une photo, mon fils de 15 ans, la première question qu'il me demande, c'est pourquoi là? Il est tout de suite très réticent. Donc, je vois bien que j'ai un petit traumatisme quand même. Fait que oui, je regrette.
Moi, mon fils, il fait des faces puis il se cache. Fait que je peux plus. Je peux plus me servir de lui pour avoir des likes.
Mais c'est ça, mais la question du blog aussi, tu sais, tu utilises tes enfants. Moi, ce que j'ai décidé à un moment donné, c'est de verser un cachet à mes enfants, de leur donner, parce que j'allais en voyage de presse avec eux. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, j'ai fait des reportages, par exemple, dans le magazine Véro. À un moment donné, les enfants sont là, ils vont être en photo, je parle d'eux. C'est ça, ça, voyons, ça sert à mon sujet. Ben, je verse un cachet.
Au prix que ça coûte, les enfants?
Non, je verse un cachet. Ou,
un vrai cachet, là. Tu sais, mettons, je sais pas, dépendamment du contrat, mais tu sais, un 100 $, 100 $, je mettais dans leur fonds d'études, exactement.
Voilà, okay.
Oui. Puis je leur ai dit, puis j'en ai parlé avec mon conjoint, ben, c'est important. Je pense qu'il faut faire ça. Puis maintenant, les bonnes pratiques, je pense que c'est justement d'attendre le consentement, d'en parler aux enfants, de sensibiliser ou de cacher le visage. Tu sais, un petit bébé de 2 mois, là. Moi, ça me dérange, là, certains influenceurs, blogueuses qui montrent tout le temps, puis qu'ils reçoivent plein de produits. Tu sais, là, à quel point c'est commercialisé ou marchandisé ton enfant?
Tu parles de ton gars qui a 15?
Oui.
Lui, est-ce qu'il t'a demandé de reculer dans ton temps et puis d'aller effacer des photos de lui d'une époque? Parce que si les gens fouillaient, on pourrait le voir jeune, là.
Il me l'a pas demandé, mais je pense que c'est une question de temps.
OK. Ah, il va finir par te le demander.
Oui. Moi, qu'est-ce que je fais avec mon chum qui veut pas être sur Facebook à 60 ans? Est-ce que tu penses que je vais te donner un cachet? Tu penses que tu voudrais?
Peut-être, ça serait peut-être une bonne idée.
Merci, Maude. Ça avance nos réflexions numérique.
Hein.
Je le disais, là, c'est quand même, à l'échelle de nos expériences humaines, ce qu'on fait avec les plateformes numériques, c'est tout à fait nouveau. Je pense que, c'est quoi? Dans quelques années, on va regarder ça, probablement, on va se dire, hey, s'attachait pas en char.
Hey, c'est le Far West.
Ben
Far
oui.
West.
On couchait les enfants sur la banquette arrière, puis ils n'étaient pas attachés. Merci, Maude.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Oui, il y avait un dossier dans la presse aujourd'hui qui mettait des chiffres sur cette impression que les femmes sont de façon générale moins bien payées que les hommes au Québec. Et ça, peu importe le domaine. Étude très intéressante de l'Institut du Québec. On apprend que lorsqu'une femme quitte l'université avec son diplôme en poche, elle va faire moins d'argent qu'un homme qui a le même profil qu'elle dans un domaine comparable. Et ça, dès l'embauche, puis après ça, avec les années, l'écart se creuse. On va écouter un extrait de l'entrevue de la chercheuse Emna Braham, qui est co-autrice de l'étude de l'Institut du Québec. Elle était au micro de Paul Arcand ce matin.
Exactement. Donc, si on considère une femme, un homme qui ont le même diplôme, qui ont étudié la même chose, qui travaillent dans le même secteur, qui ont le même nombre d'enfants, s'ils en ont, l'écart de revenus, il est de 9 % dès la première année après l'obtention du diplôme. Puis 5 ans après, c'est pire et ça atteint 16 %.
OK. Kat, tu voulais intervenir là-dessus. Tu étais, très remontée en réunion tantôt.
Ben, en fait, c'est que j'ai regardé les raisons. Et bon, il y a évidemment, tu sais, le fait, bon, que la femme porte les enfants, qu'elle a un congé de maternité. Ça, on l'a entendu à peu près 1000 fois, là, que les valeurs familiales sont tenues davantage par les femmes à la maison. OK, ça va, je tasse ça de côté, mais je pense qu'on évolue, on est rendu en 2022. Puis là, je regardais les types de raisons. Puis c'est les femmes négocient moins bien leur salaire et préfèrent les avantages sociaux. Donc, en fait, une femme préfère avoir une qualité de vie à de l'argent. C'est ce que j'en conviens. Et, tu sais, je veux dire, c'est un fait, là. Je n'irai pas à l'envers de ça, mais ça me fâche quand même de voir que à l'époque où on est, il y a encore un manque de confiance collectif chez les femmes, parce que tout ça vient du fait que si on n'est pas capable de bien négocier un salaire, si on n'est pas capable d'avoir confiance en nous quand vient le temps de demander un salaire à un employeur, ça vient du fait que on se tient pas, on se fait pas assez confiance, on croit pas en notre propre valeur. Puis ça, ben ça vient avec tout le passé, c'est-à-dire le fait que les femmes ont été diminuées pendant très très longtemps, qu'il y a eu la misogynie, et je pense que c'est resté dans l'esprit collectif qu'une femme, ça vaut encore moins cher qu'un homme. C'est dommage, c'est gros ce que je dis, c'est pas ce que je voudrais que ce soit, mais je pense que quand les femmes arrivent pour négocier, on est beaucoup plus conciliantes. On met moins nos points sur la table. On est beaucoup plus ouverte et ça se sent dans des discussions de négociation. Donc, c'est plus facile à l'employeur de rentrer, de trouver des failles et de dire, écoute, tu comprendras que on n'a plus d'argent. Tu comprendras qu'on n'a pas ces budgets-là pour te payer. Et quand on dit tu comprendras, ben, la femme comprend. Tandis que j'ai l'impression que l'homme va davantage faire, ben, non, je comprends pas. Et qu'il va trancher. Il va paraître plus, avec beaucoup plus d'assurance. Et il y a moins, en tout cas, il y a une barrière invisible qui est créée. Moi, c'est ce que je vois. Puis j'aimerais ça que ça change.
Madame Leboeuf.
Mais je suis d'accord avec Catherine au niveau de la conciliation. C'est vrai que les femmes, on est davantage conciliantes. Et je me demande aussi, si, quand on parle de négociation, qu'une femme rentre dans le bureau du patron pour négocier, par exemple, un contrat de travail ou peu importe, est-ce qu'à ce moment-là, le patron va se dire, bon, ben, étant donné qu'il s'agit d'une femme, je vais commencer par lui offrir peut-être davantage parce que, je sais pas, elle va peut-être moins négocier, tandis que l'homme, lui, va arriver, ben, il va voir le salaire puis il va dire tout de suite peut-être qu'il va y aller plus frondeur que la femme, tu sais. Puis dans les familles, les femmes, c'est souvent nous qui sommes les plus conciliantes aussi, là, au niveau d'organiser l'arrimage des enfants, puis tout ça.
Puis on a souvent peur de perdre les femmes.
Dans la messagerie, puis je veux vous entendre là-dessus, il y a quelqu'un qui m'écrit, écoutez, tout ça, c'est vrai, c'est pas normal, mais ça reste leur faute si c'est elles qui acceptent l'entente.
Ben Patrick, c'est facile à dire. Tu sais,
je dis pas qu'il y a raison.
Non, mais je réponds à ce commentaire-là. C'est très facile à dire à lancer de même. C'est de leur faute. Elles disent oui. Il y a une pression quand même qui est exercée. Tu sais, si à un moment donné, si les femmes étaient prêtes à dire, ben ça fonctionnera pas. Je sors du bureau et je m'en vais avec cette confiance-là. Peut-être que les choses changeraient, mais comme je viens de dire, les femmes, on a beaucoup peur de perdre. On croit peut-être moins bien à notre valeur. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est comme si on arrivait et on se disait, je vais vous montrer de ce que je suis capable de faire. Et là, souvent, les femmes travaillent très, très fort. Et après ça, elles sont plus capables d'aller rattraper ce que peut-être elles auraient dû négocier au départ. Tandis que le comportement qui est un peu plus masculin va dire, voici ce que je vaux, puis tu checkeras bien si c'est ça que je vaux. Tu sais, il y a comme un côté de je m'en foutisme. Et ça aussi, ça paraît beaucoup. Mais je pense que la confiance vient aussi qu'à un moment donné, ça prend des hommes, ça prend des employeurs qui vont peut-être...
Et des femmes.
Et des femmes qui vont donner une chance à des femmes en disant, voici ta valeur, elle est équitable à celle d'un homme. Puis à un moment donné, cette confiance-là va se bâtir au travers des années, puis ça paraîtra plus.
On va écouter un deuxième extrait de l'entrevue accordée par Emna Braham, la co-autrice de l'étude là, sur le salaire, toujours en rattrapage des femmes chez Paul Arcand ce matin.
On voit que les femmes choisissent moins de travailler pour les employeurs qui payent le mieux au Québec. Donc, ça peut être un choix personnel. On préfère travailler pour une entreprise qui va offrir une meilleure conciliation travail-famille, mais qui offre un moins bon salaire, par exemple. Mais ça peut aussi venir de ces employeurs qui, eux-mêmes, n'arrivent pas à offrir les conditions, par exemple, les horaires, l'atmosphère de travail qui vont être attrayantes pour les femmes. Une autre explication possible, c'est on voit que les compétences en numératie, tout ce qui est maths, TI, sont de plus en plus recherchées puis payantes sur le marché du travail. Mais les hommes sont encore plus nombreux à travailler dans des métiers où on a besoin de ces compétences-là. Donc, eux, ils continuent à développer ces compétences-là pendant leur carrière, alors que les femmes en ont moins l'occasion. Puis une autre chose qui a été documentée, c'est que les femmes semblent négocier moins leur salaire à l'entrée que leurs collègues. Puis il y a plusieurs explications possibles pour ça. Elles pourraient négocier plus, par exemple, les avantages sociaux ou d'autres conditions que leur salaire. Elles se sentent pas toujours légitimes de demander plus. Mais on voit aussi qu'elles pourraient être pénalisées socialement. Ça veut dire que on accepte un salaire moins élevé pour avoir des relations de travail plus harmonieuses.
Valérie?
Ben, je suis d'accord au niveau, quand elle parle des mathématiques, c'est vrai que c'est peut-être plus la bosse des maths, c'est peut-être plus chez les hommes, encore une fois, aujourd'hui. Puis la conciliation travail-famille, encore une fois, là, moi, je pense, chez nous, par exemple, là, mon chum, il va penser davantage, ben, moins que moi, la conciliation travail-famille, c'est encore comme ça.
La
c'est
fameuse
plate,
charge
là.
Mentale qu'on appelle.
Oui, oui, oui,
la
charge mentale.
Sur toi.
Exactement. Ouais. Exactement.
Elle est très
ça
peu payante,
pas.
Cette charge mentale.
Ouais. Ouais. Permettez-vous, j'ai un petit call de gars.
Oui.
C'est quelque chose que je vois chez les hommes et les femmes, là, ça va être cliché, OK? Mais le généralise, on s'entend, là. Bon. Tu sais, quand on dit, avec les enfants, par exemple. Tu sais, la femme, écoute, votre enfant, c'est pas juste votre enfant, c'est un morceau de vous. Tu sais, je veux dire, vous l'avez porté durant 9 mois. Donc, la mère est très protectrice de l'enfant. Le père, lui, envoie, là, je te fais de la, pas psycho, oui, là, mais tu sais, bon, on va reculer jusqu'au freudisme. Et le père, lui, prend l'enfant et le lance vers l'extérieur. C'est le cliché, c'est ce qu'on dit. Et le problème, quand on l'applique dans le monde de l'emploi, on applique le volet sécurité versus, je répète que je généralise, et le volet je plonge. Et moi, pour parler à beaucoup de femmes, quand elles négocient, je leur demande, est-ce que quand tu négociais, t'as pensé à l'opportunité, à la possibilité que ton employeur allait te dire,
ça fonctionne pas.
T'es dehors, regarde, on peut pas t'offrir, bye. Et beaucoup de mes amis de gars disent, j'y vais de même en me disant, regarde, j'ai demandé ça, en me disant, ils me mettront dehors puis je trouverai d'autres choses. Je me lance dans le vide. Les femmes, elles, de l'autre côté, disent, je veux pas perdre ma job. C'est important, la sécurité pour moi. Ouais. Donc, je prends pas ce risque-là. Donc, pourquoi je demanderais plus d'un coup que je perds? Et je pense que ça, faut changer ce genre-âge-là.
Mais pas juste ça. En 2022, quand tu regardes les femmes qui sont monoparentales aujourd'hui, là, versus les hommes qui se retrouvent tout seuls, il y a encore des femmes qui en arrachent beaucoup quand elles se retrouvent seules avec leurs enfants.
Elles peuvent pas perdre leur emploi parce qu'ils perdent leur emploi, c'est fini.
J'apporte une autre donnée à vos réflexions. Tu sais, les salaires, c'est souvent, pas toujours, là, dans les boîtes syndiquées, là, il y a une grande partie des salaires qui sont publics, là. Mais s'il y avait une transparence plus grande dans les salaires.
Ben, c'est sûr que ça aiderait.
Tu le saurais. Il y aurait des effets néfastes, là, je pense. Il y aurait des effets non désirés, mais ça aiderait aussi.
T'as ça dans l'hockey, Patrick, mais je peux te dire que partout où les gens travaillent en ce moment, les gens qui nous écoutent, tous les patrons disent à leurs employés, ne parlez pas de ça. C'est un tabou. Ne parlez pas de ça.
C'est partout, c'est un tabou, mais c'est
partout
sûr,
et de tout temps.
C'est certain que si on savait le salaire de nos collègues masculins, je suis sûr qu'on aurait, de grandes, grandes surprises. Si j'avais cette grande surprise-là, je serais vraiment probablement très, très fâchée. Et c'est certain qu'à un moment donné, ça serait plus facile de demander l'équité salariale parce que t'as quelque chose de concret. Là, on se bat un peu contre l'adversité, tu sais. Je sais pas, moi.
Mais surtout dans la vie de pigiste comme toi, là.
Non, mais tu sais, je sais pas, moi, combien t'es payé. Tu sais pas combien je paye. Personne ne sait ça. Mais à un moment donné, je me dis, à travail égal, on devrait avoir un salaire égal.
Okay.
Intéressant. Bon coup de gueule, Mme Beauchamp. Merci d'avoir participé, Mme Lebel.
Plaisir.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.